Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même, Père suprême, le Seigneur même, il est amour. J'ai la vie de toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour. C'est avant tout d'avoir faim de vérité et soif. Dans l'Ancien Testament, lorsque David, pécheur repentant, implorait le pardon de Dieu pour ce qu'il avait commis avec Bathsheba, il s'écria, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » L'Éternel désire la vérité en tout. Il en est le Créateur. C'est pourquoi on ne peut lui plaire sans avoir au fond de soi-même un immense désir de vérité. Jésus, dans son sermon sur la montagne, souligne également ce principe fondamental dans les Béatitudes lorsqu'il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Celui qui cultive un intense appétit pour la vérité a les yeux grands ouverts et les oreilles attentives à la volonté de Dieu. Cependant, la parfaite réceptivité de la vérité divine le poussera très vite à se libérer des préjugés, des notions et des théories toutes faites, toutes préconçues. À une certaine occasion, Jésus répondit à ses disciples qui lui demandaient pourquoi il parlait en parabole. « Je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Combien de fois n'ai-je pas entendu des gens dire « Je suis parfaitement satisfait et n'ai aucun désir de connaître quoi que ce soit qui puisse influencer mes convictions. » Quelle tragédie! Ce dont le monde a le plus besoin, c'est de cœurs honnêtes et sincères, de gens désirant découvrir la vérité de Dieu, de personnes désireuses d'aller jusqu'au bout de leurs aspirations et d'y obéir. Souvenez-vous de la manière dont le Christ conclut la parabole du semeur. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dieu lui-même dit à chacun d'entre nous, « Donne-moi ton cœur, oui. » Un cœur honnête et sincère, c'est tout ce qu'il désire. Il est évident qu'en cherchant la vérité avec ferveur, on s'humilie également devant Dieu tout en lui demandant dans nos prières de nous aider à pénétrer cette vérité qui sauve. Le livre des psaumes exemplifie parfaitement ce principe. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Le Nouveau Testament, quant à lui, nous transmet cet ordre direct, positif du Saint-Esprit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Permettez-moi de vous poser deux questions. Priez-vous Dieu pour recevoir la sagesse de bien discerner ce qu'il vous dit dans sa sainte parole? Implorez-vous Dieu de tout votre cœur afin qu'il vous aide à trouver sa vérité. Et même si cela est contraire à tout ce que vous avez cru jusqu'à présent, une telle requête exige une foi immense. Celle dont parle Jacques, chapitre 1, verset 6, qui la demande avec foi, sans douter. Lorsque quelqu'un désire à ce point trouver la vérité, il supplie Dieu de la lui faire découvrir, que de lui donner la sagesse de la bien comprendre. Alors il trouve tout naturel d'y croire et d'accepter. Jean chapitre 8, versets 45 et 46 nous dit que lorsque Christ réprimandait certains juifs, le Seigneur s'écria, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Les juifs tentaient par tous les moyens de trouver le Fils de Dieu en flagrant délit de mensonge, ou encore voulaient essayer d'entrevoir quel qu'illogisme dans son enseignement, mais en vain. On est dès lors en droit de se demander pourquoi il réfutait systématiquement la vérité pourtant si limpide, si logique, concernant sa qualité de Messie. Jésus-Christ les avait cependant avertis sans équivoque. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Cette vérité, il faut la croire. La vie éternelle en dépend. Voudriez-vous périr éternellement à cause de vos fautes passées et présentes? Dites-moi, le voudriez-vous? Le christianisme ne connaît aucune vérité qui ne soit le fruit d'un amour profond. Haïr la vérité en tant que telle serait détester la bonté pour son propre bien. Une attitude normale à prendre envers la vérité, c'est de l'aimer. Ceci était vrai en ce qui concerne l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le prophète Zacharie disait déjà à son peuple environ 500 ans avant Jésus-Christ, « Aimez la vérité et la paix ». Et le Nouveau Testament, dans un de ses passages le plus effrayant, parle de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les êtres humains trouvent beaucoup de plaisir en marge de ce qu'ils aiment. Mais tel n'est pas votre cas, n'est-ce pas? Vous croyez, vous aimez la vérité? Dieu n'a pas, en ce qui vous concerne, trouvé nécessaire d'envoyer sur vous une puissance d'égarement. Il est bon, malgré tout, de se souvenir que Satan ne prend jamais de vacances. Ceux qui n'aiment ni n'obéissent à la vérité pourraient très bien être trompés par l'erreur et se retrouver en enfer. En feuilletant un livre, j'ai trouvé cette citation de Josué Schwartz et la partage avec vous. La vérité sans amour est très souvent intolérante, verse même dans la persécution. De même, l'amour sans vérité est faible dans ses concessions et peu digne de confiance dans son jugement. Mais l'amour loyal envers la vérité et se réjouissant en elle possède la sagesse du serpent alliée à l'innocence de la colombe. Celui qui désire la vérité, qui prie pour elle, y croit. Il l'aime tellement qu'il s'engage à faire la volonté du Père. En Jean chapitre 7, verset 17, Jésus déclare « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Oui. Dieu nous a promis une puissance de discernement en ce qui concerne la vraie doctrine. Il émet toutefois une condition, la détermination à vouloir l'apprendre et y obéir. Serait-il possible que vous ne soyez pas encore engagé dans cette recherche du vrai et du pur? Auriez-vous toujours un œil fermé et une oreille bouchée à la parole de Dieu? Tout ce que nous venons de voir ensemble doit être couronné par un sincère esprit de soumission, c'est-à-dire un cœur ouvert à l'obéissance. L'apôtre Paul nous lance cette exhortation. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Un peu plus loin, dans sa lettre aux Romains, il se réjouit de l'attitude de ces derniers et dit « Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Cette règle de doctrine dont parle Paul est révélée dans les 11 premiers versets du chapitre 6 de cette même épître. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus de même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, n'en a plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. La vérité n'est pas d'ordre intellectuel pur, mais contient un sens pratique certain. Une connaissance qui permet d'orienter sa vie selon la volonté de Dieu. Dans la Bible, l'idée de vérité évoque fondamentalement la solidité, la sûreté, la fidélité, la constance. On y cite en hébreu des hommes de vérité, c'est-à-dire intègres, fidèles, sur qui on peut compter. Un chemin de vérité qui conduit fidèlement au but. Une paix de vérité, quelque chose d'assuré, de solide. D'un plan de vérité dont on est en droit d'attendre du bon fruit. La notion de vérité est liée à celle de fidélité. C'est pourquoi les expressions « Dieu de fidélité » et « Dieu de vérité » sont utilisées à peu près indifféremment. Mais tout ceci nous fait mieux connaître pourquoi il est si important de rechercher, de posséder, de conserver en soi ce souci de vérité stricte en dehors de laquelle rien ne peut exister quant à la conduite de notre vie spirituelle. Jésus vous dit aujourd'hui même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette affirmation, cet appel aussi, réunit tout ce dont nous avons besoin pour notre salut. Cette vérité, dans tout ce qu'elle renferme, en voulez-vous? Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuit de temps en temps, car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur même, il est amour. Je le dirai toujours, le Seigneur même.